Nous sommes arrivés donc au chapitre 58 du prophète Ésaïe, et dans ma Bible, ce chapitre a comme titre « Le vrai jeûne ». Alors, parmi les Juifs, il y avait un jour annuel de jeûne, c'était le jour du grand pardon, ou le Yom Kippour. Il y a des instructions sur la manière de célébrer cette journée dans Lévitique chapitre 23. Et les versets 26 à 32. Soit dit en passant que le verbe utilisé, c'est seulement qu'il faut s'humilier ce jour-là. C'est la tradition juive qui y a vu l'ordre de jeûner. Et dans l'Ancien Testament, d'autres textes évoquent le jeûne à différents moments, par exemple pour accompagner le deuil, pour indiquer la repentance, ou bien à des moments de grand danger pour la nation. Donc nous allons voir l'enseignement de ce chapitre. Je ne vais pas lire le chapitre, soit vous arrêtez un moment l'enregistrement et vous le lisez avant, soit vous pouvez le lire après cet exposé du texte. Alors, quel est le problème soulevé dans ce texte d'Ésaïe ? C'est que les gens pensaient que Dieu était en quelque sorte obligé d'exaucer leurs prières s'ils jeûnaient. Le verset 2 le dit, « C'est moi que jour après jour y consulte, et à la fin du verset, il me réclame des jugements conformes à la justice. » Autrement dit, comme on dirait aujourd'hui, ils insistent sur leurs droits. Dieu est obligé de leur répondre parce que ils ont pris le temps de jeûner. Et puisqu'ils n'ont pas vu les exaucements de prière, ils se posent la question au verset 3, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas ? À quoi ça nous sert de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Alors, quelle est la réponse à ces questions ? C'est la suite du chapitre qui le développe. Mais on a déjà une petite indication au milieu du verset 2 avec l'utilisation du verbe au conditionnel. Donc, ces personnes cherchent Dieu comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Autrement dit, le jeûne n'a pas empêché la méchanceté de leurs actions. La deuxième partie du verset 3 le dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement tous vos ouvriers. Parce que le jeûne était devenu comme une sorte de rituel, de geste extérieur, mais qui ne touchait pas le cœur. Il y avait presque le désir de manipuler Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 4. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. C'est dans ce contexte-là donc que le verset 1 prend tout son relief. Il s'agit d'un appel vibrant où le prophète dénonce la faute du peuple, il dénonce son péché. Verset 1, « Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob, ses péchés. » Alors, qu'est-ce que le vrai jeûne ? Bon, c'est la suite de ce chapitre qui nous le dit. Je vais citer quelques versets. Par exemple, le verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. En un mot, cessez d'opprimer les autres. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Autrement dit, il faut partager ce que l'on a, son pain, son hospitalité, ses habits. Puis le verset 9, la deuxième partie du verset 9, Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, et puis le verset 10, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira. Donc encore une fois, il s'agit de partager ses ressources, d'aider, d'aimer les personnes autour de nous, celui qui a faim, celui qui est opprimé. Et puis, les derniers versets du chapitre, à partir du verset 13, c'est qu'il faut observer le sabbat. Je lis verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. » Ce qui est intéressant, c'est que le sabbat, c'est à la fois pour soi et aussi pour les autres. Certains commentateurs mettent en parallèle le verset 3, où il est dit que vous traitez durement tous vos ouvriers, peut-être même qu'on les obligeait de travailler le sabbat sans pouvoir se reposer. En tout cas, le commandement, ce n'est pas simplement « je me prive de quelque chose ». J'ai beaucoup aimé la traduction du second 21 qui dit « si tu considères le sabbat comme un plaisir ». Si tu considères le jour saint de l'Éternel comme étant digne d'être honoré. Donc voilà, le vrai jeûne, c'est cesser d'opprimer, partager ce que l'on a, cesser les gestes et les propos méchants, et observer le sabbat, le repos du Seigneur, pour le mettre à la première place. Alors, qu'est-ce qui en découle quand on pratique ce vrai jeûne? Bon, il y a plusieurs choses dans ce texte. D'abord, je vais lire les versets 8 et la première partie du verset 9. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Donc la première chose qui en découle, c'est qu'on connaîtra la présence du Seigneur, qui va nous accompagner sur notre route, il sera comme l'arrière-garde derrière nous pour nous protéger, et quand on fait appel à lui, il dirait tout simplement « me voici ». Donc en pratiquant le vrai jeûne, on connaîtra vraiment la présence du Seigneur. Deuxième chose, le verset 10, la deuxième partie du verset 10, « alors ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. » Donc, en pratiquant ce vrai jeûne, d'abord, on vivra dans la lumière. On vivra dans la lumière, on verra où on met les pieds, on ne sera pas dans les ténèbres, et verset 11, « l'Éternel sera notre guide, et il pourvoira à tous nos besoins. » On peut vraiment lui faire confiance. En plus, le Seigneur va nous utiliser pour rebâtir, on peut dire au sens propre, comme au sens figuré, au sens propre, parce que ça veut dire que on va rebâtir sur d'anciennes ruines, on va reconstruire des maisons, on va réparer des brèches, on va restaurer des sentiers fréquentés. Au sens figuré, on va pouvoir restaurer ou revitaliser les églises. On va les refonder sur les anciennes fondations, hein, les fondations qui n'ont pas changé, hein. Jésus, c'est la seule fondation. Et on sera un réparateur de brèches. J'ai vu une fois d'ailleurs sur l'annuaire évangélique qui liste toutes les églises qu'il y a quelque part une église qui s'appelle l'église réparateur de brèches. Bon, Je ne sais pas si ça communique bien à la population française, mais d'autre part, on peut dire que c'est tout à fait scripturaire, c'est tout à fait biblique. En pratiquant le jeûne, on va réparer les brèches parce qu'on va aimer notre prochain comme nous-mêmes et on va aimer le Seigneur de tout notre être. Puis la troisième promesse, c'est la fin du chapitre, après le verset qui part du sabbat. Nous lisons au verset 14, « Alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel, et je te ferai monter sous les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. » Autrement dit, il va restaurer, le peuple va rester dans le pays, ils ne vont pas être déportés à nouveau, ils vont pouvoir rester en toute tranquillité, parce qu'il n'y aurait pas un jeune qui est simplement joué à la religion, un truc extérieur, mais un vrai désir de plaire à Dieu et de vivre avec lui. Donc voilà, en gros, l'enseignement de ce texte. Mais il me semblait que c'était nécessaire de continuer un petit peu pour parler du jeûne. Parce que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il y a des sites, il y a des journées de jeûne, et des personnes de l'Église m'ont posé la question, par mail ou autre, est-ce que le jeûne est vraiment une pratique chrétienne? Et il me semblait que c'était nécessaire de faire suivre cet exposé d'Ésaïe 58, un deuxième exposé qui va se construire sur ce premier exposé pour répondre à la question « Est-ce que le jeûne, c'est une pratique chrétienne ?» Alors, moi, j'ai cherché dans le Nouveau Testament, nous avons les moyens technologiques pour le faire assez facilement avec des applications qui le permettent. J'ai cherché dans le Nouveau Testament tous les versets qui parlent du jeûne et on peut résumer de la façon suivante, ça va prendre quelques minutes. D'abord, ce qui est vrai, il n'y a aucun commandement de pratiquer le jeûne. Mais Jésus en parle et il a déjà lui-même pratiqué. Par exemple, quand il était tenté dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et c'est avant la première tentation où le diable lui propose de changer les pierres en pain, hein, parce qu'il avait faim. Donc Jésus a parlé du jeûne, quelques versets, et l'a pratiqué. Et puis il y a quelques petites indications que les premiers chrétiens, à l'époque des apôtres, le pratiquaient. En revanche, il faut affirmer avec force qu'il ne s'agit pas d'un rituel obligatoire, comme le ramadan pour les musulmans ou comme le Yom Kippour pour les juifs. Et de toute façon, le jeûne n'est jamais méritoire. Vous rappelez cette histoire que Jésus a racontée dans Luc 18, de deux personnes qui vont dans le temple pour prier. Il y a un pharisien et un collecteur d'impôts. Et le pharisien fait la prière suivante. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, sont voleurs, injustes, adultères, etc. Ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine. » Alors que le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, il n'a même pas osé lever les yeux au ciel, mais en se frappant la poitrine, il disait « Oh Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Et Jésus a dit « C'est ce dernier qui est rentré chez lui, considéré comme juste par le Seigneur. » Donc, il faut surtout dire qu'il n'y a pas d'obligation de jeûne, et le jeûne n'est d'aucune façon méritoire. On ne peut pas manipuler Dieu. Alors, il y a aussi quelques autres références au jeûne dans le Nouveau Testament, mais qui, me semble-t-il, ne nous concernent pas trop. Il y a une référence dans Luc 2, verset 37, la prophétesse Anne, qui a reconnu Jésus quand ses parents l'ont amené au temple en tant que bébé, restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je pense que ce sont des jeûnes tels que les juifs les pratiquaient à l'époque. Et puis, deuxième référence, dans Actes 27, verset 9, quand Paul est en route pour Rome, en tant que prisonnier qui avait fait appel à César, il a dit au capitaine du bateau que c'était dangereux de partir parce que, je cite Actes 27, la navigation est devenue dangereuse car l'époque du jeûne est déjà passée. Donc là, le jeûne, c'est le Yom Kippour qui a lieu à l'automne, donc l'hiver arrivé, et c'était dangereux de naviguer à cette période. Donc voilà deux versets qui font plutôt référence à l'Ancien Testament. Un autre verset, Matthieu 17, 21, suite à l'intervention de Jésus pour chasser un démon, nous disons, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bon, le problème là, c'est que ce verset ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits, et en regardant dans le sommeur, ils ne traduisent même pas. Ils passent carrément du verset 20 au verset 22. Ensuite, par deux fois, dans 2 Corinthiens, Paul parle de jeûne. 2 Corinthiens 6, verset 5, il dit à la fois au chapitre 6 et au verset 11 toutes les difficultés par lesquelles il est passé. 2 Corinthiens 6, 5, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et dans 2 Corinthiens 11, 27, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et il y a quand même un certain consensus parmi les théologiens qui connaissent bien les écrits de Paul, qu'il ne s'agissait pas d'un jeûne qu'il avait décidé de faire, mais plutôt de jeûne forcé par les circonstances, alors qu'il était en voyage ou chassé des villes parce qu'il prêchait l'évangile. Donc on peut mettre ces versets-là de côté. Et maintenant on va passer à des versets plus pertinents pour nous, qui peuvent nous enseigner. D'abord, dans le serment sur la montagne, donc là on est dans Matthieu chapitre 6, les versets 16 à 18, Jésus part du jeûne, tout comme d'ailleurs il part d'autres pratiques pour mettre les gens, mettre les disciples en garde, pour ne pas les faire de façon à en mettre plein la vue aux autres, mais plutôt pour le Seigneur. Donc je lis Matthieu 6, 16 à 18. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc, comme je l'ai dit, on suppose qu'à certains moments, les chrétiens peuvent jeûner. Ce n'est même pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez. Et comme je l'ai dit, on ne le fait pas pour impressionner les autres, mais on le fait pour le Seigneur. Et lui, il voit dans le secret. On n'est pas obligé de dire qu'on est en train de jeûner. Il n'est pas nécessaire de le montrer par un visage défait. Non, parfume ta tête, lave ton visage, habille-toi normalement. Et le Seigneur qui voit dans le secret te le rendra. Donc ça, c'est un verset qui peut être, trois versets qui peuvent être pertinents pour nous. Un autre texte qui est pertinent, on peut le trouver dans Matthieu chapitre 9, ce sont les versets 14 et 15. D'ailleurs, dans Marc 2 et Luc 5, il y a à peu près le même texte, donc dans les trois évangiles synoptiques. Mais je vais le lire dans Matthieu 9 et les versets 14 et 15. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Donc, dans ce texte, Jésus dit que si les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent, ses disciples à lui ne le faisaient pas vraiment. Ils étaient plutôt dans la joie d'être avec Jésus, qui annonçait une bonne nouvelle, qui prêchait, qui guérissait les gens. Mais Jésus dit, un jour, je ne serai plus avec eux. Et donc, après sa mort et sa résurrection et l'ascension, il remonte auprès de son Père. Et là, il dit, il y aura suffisamment d'occasions où le jeûne conviendrait dans la vie de ses disciples. C'est à ce moment-là, peut-être, lors de persécutions ou de grands dangers, ils peuvent être amenés à jeûner. Enfin, j'ai trouvé deux références au jeûne dans le livre des Actes. Acte 13, verset 3. C'est dans l'église d'Antioche qu'il y a des gens les responsables, ils sont en train de jeûner et de prier. Donc, acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ça veut dire, ils ont imposé les mains à Paul et à Barnabas pour les envoyer en mission. Et pendant leur premier voyage missionnaire, donc ils ont fait le tour de plusieurs villes, ils ont créé des églises, ils reviennent aux mêmes églises, et nous lisons dans Actes 14, verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On ne sait pas, il n'y a pas d'explication, est-ce qu'ils ont prié et jeûné pour mieux discerner les personnes qui devaient désigner les anciens, ou est-ce que, puisque c'est la première fois qu'ils avaient fait cela, et ils sentaient vraiment le besoin de s'approcher de façon particulière au Seigneur. On ne mentionne plus le jeûne dans les Actes des Apôtres après, bon, c'est possible, bien probable qu'ils jeûnaient, mais on n'en parle pas. Et en plus, ce qui est assez étonnant, en revanche, c'est que le jeûne n'est pas mentionné une seule fois dans les épîtres, que ce soit les épîtres de Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean ou de Jude. Et il me semble que cette absence de référence indique que le jeûne, en tant que pratique chrétienne, n'est pas spécifiquement encouragé. Il n'y a pas de ce n'est pas un fardeau que chaque chrétien doit absolument porter, si jamais on pense que c'est un fardeau. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement encouragé, mais une pratique qui existe et qui peut être utile à certains moments. Alors, je termine avec la question, alors pourquoi jeûner? Et là, en fait, les avis sont assez partagés, parce qu'il n'y a pas de référence biblique qui dit en tant que tel à quoi ça sert. Grosso modo, j'ai trouvé trois raisons que les uns et les autres proposent pour le jeûne. D'abord, jeûner libère du temps pour la prière. Si on saute un repas, comme on dit, on peut utiliser ce temps pour prier. Deuxième chose, ce jeûne communique à Dieu que lui est plus important que la nourriture, que nous avons davantage besoin de lui que de nourriture. Ou troisièmement, notre faim et soif symbolisent en quelque sorte la faim et soif que nous avons, que Dieu soit glorifié, que son règne vienne, que son nom, donc tout ce qu'il est, soit honoré et reconnu. Et là, en termes pratiques, on peut penser à Acte 13, lorsque les responsables de l'église d'Antioche ont jeûné et prié, ils voulaient que Dieu soit glorifié. L'aboutissement de cela, c'est l'appel et l'envoi de Paul et Barnabas pour aller vers les nations pour annoncer l'évangile. Donc, en conclusion, on peut dire que Dieu nous offre cette possibilité de jeûner pour différentes raisons, mais c'est loin d'être une obligation pour tout chrétien. Nous n'avons rien à prouver. Le jeûne n'est pas méritoire. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Nous marchons dans cette grâce, nous ne pouvons jamais manipuler Dieu, mais si l'un ou l'autre sent le besoin ou a envie de jeûner, pour quelque raison que ce soit, c'est une possibilité qui nous est ouverte, mais il faut surtout pas, et là je reviens à Ésaïe 58, penser que le fait de jeûner nous dispense d'aimer Dieu autrement et surtout d'aimer notre prochain de façon pratique. Voilà donc quelques réflexions sur ce texte de Ésaïe 58. Donc je vais terminer de nouveau avec un des versets dans Ésaïe 58, le verset 8. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. C'est une promesse qu'il nous fait, que l'on jeûne ou non, à partir du moment où on fait partie, et si on a le privilège de faire partie de ses enfants, rachetés par le sang de Jésus. Amen.